le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, braisé, frit ou bouilli avec une sauce à la tomate ou un simple filet de citron, nous mangeons de plus en plus de poissons. Et quand la surpêche atteint des niveaux critiques au large des côtes des Européens ou des Asiatiques, leurs chalutiers vont se servir en Afrique. Pas n'importe comment, du moins officiellement, puisque des accords sont signés entre l'Union européenne et les pays du Golfe de Guinée, de l'argent contre des quotas de pêche. Mais comment contrôler le respect de ces quotas? Comment s'assurer que les pêcheurs artisanaux locaux ne seront pas lésés alors qu'un poisson sur cinq est pêché illégalement dans le monde? L'envers de cette course au profit, c'est le pillage des ressources marines, notamment dans le golfe de Guinée, et la spirale infernale de la misère des pêcheurs artisanaux qui n'ont plus rien dans leur filet pour gagner leur vie et nourrir leur famille. Ils rejoignent alors les rangs des 130 000 pêcheurs esclaves qui écument les mers sur de vieux chalutiers, ceux des pirates qui se professionnalisent ou des migrants, car la pirogue peut aussi servir à franchir la Méditerranée. Ce sont ces réalités dont nous allons parler avec nos invités.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Maxime Delisle.
Bonjour.
Vous avez été commandant en second sur un navire de l'association Sea Shepherd lors de plusieurs missions en Afrique de l'Ouest, justement dans le golfe de Guinée dont je parlais à l'instant. Une expérience que vous racontez dans une bande dessinée, le titre dit tout, hein, Pillage au pluriel, c'est publié chez Delcourt avec les formidables dessins de Renan Coquin. Vous êtes aussi président de Systémique, qui est une ONG qui s'engage à essayer de faire changer les choses. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter Sea Shepherd pour ceux qui ne connaîtraient pas cette association très engagée?
Sea Shepherd, c'est une association qui a 40 ans maintenant, qui a été fondée au Canada par un monsieur qui s'appelle Paul Watson, qui est dédié à la protection des océans et qui a une approche assez unique, qui est d'être en mer avec des bateaux et d'aller faire de l'action directe. Donc c'est d'aller sur place pour empêcher le pillage, soit en faisant des actions très spectaculaires, en se mettant entre un baleinier japonais par exemple et une baleine, soit maintenant ce qui est fait depuis quelques années, c'est faire des partenariats avec des pays, des gouvernements, beaucoup en Afrique mais pas que, pour aller faire de la police des pêches.
Alors aujourd'hui, l'association possède une flotte d'une dizaine de navires qui opèrent chaque année donc dans différents pays. Avec l'équipage, ce sont des volontaires, plus de 300 volontaires qui sont engagés chaque année sur ces navires. C'est quand même un engagement, on le voit à travers votre bande dessinée totale.
Oui, il faut avoir envie de partir en mer pendant 2, 3, 4 mois d'affilée dans des conditions qui sont celles de la mer. Donc parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois il y a la tempête.
Oui, et puis c'est pas le petit voilier sympa.
Non, hein. C'est des bateaux qui font entre 30 et 55 mètres. Et notre rôle, c'est d'aller faire de la chasse à la pêche illégale. Et donc c'est un engagement qui est total, qui est jour et nuit pendant 3, 4 mois. Certains perdent beaucoup de poids parce qu'il y a du stress, prennent beaucoup de poids parce qu'on ne fait pas beaucoup de sport. Mais c'est un engagement qui est total et qui a une seule mission, c'est d'aller repérer la pêche illégale. C'est 20% de la pêche dans le monde. Et ensuite, arrêter directement sur place les braconniers.
Alors, une vingtaine de personnes composent l'équipage. Vous étiez second. Ça consiste en quoi?
On est quasiment 25 même à bord. Ça monte jusqu'à 40 parfois parce qu'il y a des militaires du pays, des inspecteurs des pêches qui viennent. Commandant en second, c'est un rôle qui est double. Il y a un rôle qui est de piloter le bateau. On est 3, 24 heures sur 24 à se relayer et le commandant en second fait ça. Et aussi, c'est accompagner le commandant sur où on va aller, quelle est la stratégie, où sont probablement les pêcheurs, est-ce que c'est à la frontière avec le pays voisin, est-ce que c'est dans des aires marines protégées, est-ce que c'est la nuit dans le proche des côtes. Et puis aussi, il y a toutes les questions de sécurité. S'il y a un incendie à bord, on ne peut pas sortir en attendant les pompiers, donc il faut savoir gérer ça. Si le bateau a une panne technique, il faut savoir gérer ça.
Ou des attaques de pirates.
Et ça, c'est pour ça qu'heureusement, on a des partenariats avec les gouvernements africains qui permettent de faire à la fois que l'État soit là avec nous pour inspecter les bateaux, mais aussi nous protéger en cas d'attaque. C'est ce qu'on a eu et ce qu'on raconte dans la BD. C'était en 2020, dans le golfe de Guinée, avec la frontière du Nigeria. C'était l'endroit où au monde il y avait le plus d'attaques pirates. C'était tous les jours, quelques jours avant Noël. Tous les jours, il y avait des attaques. On pensait que ce ne serait pas sur nous. Et puis en fait, à 150 km des côtes, on voit un esquif qui nous arrive dessus. Et là, l'objectif des pirates, c'est quoi? C'est deux choses. C'est prendre tout ce qu'il y a de valeur à bord et aussi prendre des otages pour ensuite avoir des rançons.
Bon, dans la bande dessinée, ça s'est bien terminé.
Dans la vraie vie aussi.
Et comme vous êtes là, ça s'est bien terminé aussi. Et donc, vous avez fait plusieurs missions. Où exactement?
J'ai fait trois missions. Deux missions en Afrique, donc une au Bénin et une au Gabon. En tout, il y a une huitaine de pays avec lesquels Sea Shepherd a des partenariats. Il y a aussi le Sierra Leone, il y a la Gambie, la Namibie, etc. Et la dernière mission que j'ai faite, c'est en Europe, c'est en Italie, parce que la pêche illégale, elle ne se fait pas qu'en Afrique, c'est partout sur la planète et au large des côtes européennes aussi. En Italie, le gros sujet, c'est le thon rouge, qui est une espèce qui est très prisée, qui était proche de l'effondrement. Et donc, on chasse les braconniers du thon rouge.
Et il y a des découvertes sordides, hein, vous en parlez dans la bande dessinée, comme ce bateau rencontré par hasard en 2017 au large du Liberia, qui tuait plus de 500 000 requins par an.
Ouais, ça semble fou, mais sur la pêche, il y a différents types de malfrats. Il y en a qui pêchent illégalement pour survivre, mais il y en a d'autres où vraiment c'est du commerce organisé, international. Et ce bateau, qui s'appelle le Labico 2, était spécialisé, c'est un ancien bateau espagnol qui était spécialisé dans l'huile de foie de requin. Donc, ils pêchaient totalement illégalement 500 000 requins par an pour prendre un peu d'aileron, l'huile de foie, le reste, ils le jetaient à la mer. Et ensuite, c'est de l'huile qui servait surtout pour des cosmétiques en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est un bateau qui a été recherché pendant longtemps. Il était sur la liste rouge d'Interpol. Et après des années de chasse, Sea Shepherd a réussi à le trouver.
Est-ce qu'il y a des équipages en mer en ce moment?
Ouais, il y a toujours des bateaux de Sea Shepherd en mer en ce moment, comme il y a des bateaux de Greenpeace aussi. Il y a plusieurs ONG qui essayent de faire ça. Je ne saurais pas exactement vous dire où est-ce qu'ils sont en ce moment,
mais
il y en a toujours quelques-uns.
Je crois qu'ils n'aiment pas trop, d'ailleurs, que l'on dise où ils sont.
C'est comme tous les rôles où on essaye de pourchasser des malfrats, la pêche illégale se cache. Et donc, si on dit où est-ce qu'on est, ils vont se cacher, ils vont échapper.
Bonjour Daniel Poli.
Bonjour.
Vous êtes franco-canadien, vous êtes reconnu comme l'un des plus grands spécialistes au monde des ressources marines. Vous êtes professeur à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, c'est d'ailleurs de là que vous nous appelez. Et vous dirigez le projet Sea Around Us qui étudie l'impact justement de la pêche sur les écosystèmes marins de la planète. Je suis allée voir d'ailleurs les données sur le golfe de Guinée. C'est vraiment impressionnant de voir l'évolution de la pêche. On voit très bien pays par pays. Tout a commencé dans le golfe de Guinée dans les années 50 finalement. C'était avec les thoniers et les sardiniers bretons et basques qui ont commencé à frayer au large de l'Afrique de l'Ouest.
C'est ça. Je viens de passer en fait 3 mois au Ghana. Je suis revenu il y a 2 semaines et j'ai appris beaucoup de choses qui se sont passées depuis 52 ans parce que j'y suis allé au Ghana quand j'étais étudiant, faire ma thèse de master. Et donc, je suis revenu au Ghana et j'ai pu voir l'évolution de la pêche, qui est bien sûr a sombré, ils n'attrapent plus grand-chose, à cause de la pression des pêcheurs étrangers. Et c'est très grave parce que le Ghana, les prises diminuent. Et il faudra qu'on mette à jour, en fait, notre base de données parce qu'elle ne tient pas assez compte des bateaux étrangers. Ils font semblant d'être des Ghanéens, mais en fait, ce sont des bateaux étrangers. Je ne vais pas contredire ce qui vient d'être dit, mais ce n'est pas seulement la pêche illégale qui est un problème, c'est la pêche industrielle, c'est la pêche elle-même. Parce qu'on voudrait pouvoir manger du poisson, tout le monde veut manger du poisson, il y a de plus en plus de personnes qui veulent manger du poisson, et la mer, elle est à bout. Elle ne peut pas subvenir à tous ses besoins, à cette demande, et c'est la pêche elle-même qui est le problème, c'est qui est devenu le problème, ce n'est plus la pêche illégale, plus seulement la pêche illégale.
Bonjour Frédéric Lemanac.
Bonjour.
Vous êtes depuis 10 ans le directeur scientifique de l'association Bloom, fondée par Claire Nouvian en 2005 et qui se bat, elle aussi, pour la défense de l'océan et de ceux qui en vivent. Et alors, comment est-ce que vous réagissez donc à ces propos de Maxime Delisle et à Daniel Poli? Daniel Poli qui était, je crois, votre maître de doctorat, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Donc, on ne vous présente pas, c'est un petit monde finalement. Donc, comment est-ce que vous réagissez à ce qui a été dit?
Bizarrement, je suis très d'accord avec Daniel Poli, puisqu'effectivement, la pêche légale, en fait, c'est évidemment devenu le problème numéro un. C'est d'ailleurs identifié par exemple, l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, du climat pour la biodiversité. Et d'ailleurs, le GIEC et l'IPBES disent que la pêche est la première pression au niveau mondial sur les écosystèmes marins. Et donc, on a évidemment un problème de pêche illégale, on a un problème de pêche pirate, on a un problème de pêche qui ne se voit pas. Mais on a aussi un énorme problème de pêche légitime. qui est subventionné par les États, sous couvert d'accords de pêche, etc. Et donc on a...
Oui, parce qu'il y a quand même des vrais accords de pêche, par exemple, entre l'Union européenne et des pays africains qui payent pour pouvoir pêcher dans les zones économiques exclusives des pays.
Exactement. Et donc ça, ça coûte des dizaines de millions d'euros par an aux contribuables aux Européens. Et donc on envoie de manière légitime des bateaux de taille moyenne, voire très gros. On a des bateaux qui font 100, 120, 140 mètres de long qui sont envoyés grâce à de l'argent public dans les eaux de l'Afrique et qui vont pêcher de manière totalement légitime, légale, au regard du droit, dans ces zones-là. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui est très problématique puisqu'on a des populations de poissons qui sont surexploitées. On a des populations locales qui ont besoin de ces poissons pour leur sécurité alimentaire, pour l'emploi, etc. Et on a, de l'autre côté, ces bateaux européens qui sont européens ou aussi de Corée du Sud, du Japon, de Chine, de Russie, de Turquie. Il y a plein de pays différents qui sont actifs en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est et qui sont en train de piller, d'où le titre de la BD, les ressources de ces pays-là. Et c'est fait de manière légitime. Ça ne veut pas dire que l'impact sur l'environnement il est inexistant, très loin de là. Et donc, on a aussi besoin de s'adresser à ce problème-là.
Oui, surtout que la contrepartie financière, que par exemple l'argent que donnent les pays européens pour pouvoir pêcher dans ces zones au large des côtes africaines, est finalement très faible.
C'est généralement assez faible, ça peut être important pour certains pays, ça peut représenter un pourcentage non négligeable du PIB. Par exemple, aux Seychelles, on a le secteur de la pêche thonnière qui est le deuxième secteur le plus important après le tourisme, par exemple. Donc, ce n'est pas simplement les droits de pêche qui vont générer quelques devises, mais c'est aussi tout le commerce qui va se mettre autour. Par exemple, aux Seychelles, on a une très grosse usine de transformation du thon qui met le thon en boîte, qui appartient à une multinationale thaïlandaise qui s'appelle Thai Union, qui possède notamment la marque Petit Navire, qu'on connaît très bien en France. Et donc ce système où on a des bateaux qui opèrent depuis les Seychelles, qui débarquent aux Seychelles, dont le produit de la pêche est transformé aux Seychelles, génère en fait quand même une économie qui est importante. Donc selon les pays, ça peut ne pas être marginal. Mais c'est vrai que pour pas mal d'autres pays, c'est quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros, mais dans le budget d'un pays, ça compte pas beaucoup, c'est sûr.
Maxime Delisle, dans votre bande dessinée, vous dites que 80% des foyers français ont une boîte de thon chez eux.
Oui, c'est vraiment une des bases de l'alimentation des Français, pour trois raisons. C'est très simple à préparer, c'est pas très cher, et c'est assez bon pour beaucoup de gens.
Et donc, c'est pas très cher, c'est peut-être ça le problème, c'est que derrière, ça coûte très cher à l'ensemble de l'humanité,
ouais,
finalement,
exactement.
Cette petite boîte.
Et pour revenir un peu, pour compléter sur le sujet des droits de pêche et de combien ça rapporte à certains pays, c'est le cas aux Seychelles où c'est un gros revenu. Quand on va au Gabon, le thon qui est pêché au Gabon, qui est une grosse partie du thon qu'on a aussi dans les assiettes des Français, il y a quelques centimes par kilo qui vont à l'État gabonais. Parce que toute la pêche est faite dans leurs eaux et ensuite elle est débarquée ailleurs en Côte d'Ivoire et ensuite ça va directement en Europe. Donc la valeur financière qui est remise aux Gabonais, elle est totalement marginale.
Et si nous cessions de pêcher ? Impossible évidemment, mais c'est pourtant ce que prônent les Australiens King Grizzard et The Lizard Wizard avec leur titre Fishing for Fishes sur RFI.
Don't matter.
australien King Grizzard et de Lizard Wizard dans C'est pas du vent sur RFI.
R F I. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons de la pêche, ou plutôt de la surpêche aujourd'hui, avec nos invités en studio, Maxime Delisle, qui vient de publier avec Renan Coquin « Pillage chez Delcourt », Frédéric Lemanac, le directeur scientifique de l'association Bloom, et en ligne avec nous depuis Vancouver, le biologiste Daniel Poli. Et la surpêche est un véritable casse-tête, vous l'avez compris, pour les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le sujet était d'ailleurs au cœur de la 11e édition du Forum du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine, le PRCM. Plus de 400 délégués venus de 9 pays de la sous-région, des experts, des acteurs du secteur de la pêche et de la préservation des écosystèmes côtiers et marins ont réfléchi pendant 3 jours au thème conservation, résilience et développement durable du littoral de l'Afrique de l'Ouest face aux changements globaux. Tout un programme. La réunion a eu lieu la semaine dernière à Bissau, en Guinée. Alain Hierro Mbalo, notre correspondant, était sur place.
En Afrique de l'Ouest, les temps sont rudes pour près de 10 millions de personnes qui vivent essentiellement de la pêche. De nombreux pays côtiers en développement dépendent du poisson pour des millions d'emplois et pour répondre aux besoins alimentaires de leur population. À cause de la forte pression sur leurs ressources halieutiques, les eaux s'appauvrissent au jour le jour et le poisson devient difficile à trouver. Les océans font l'objet d'une exploitation si intense qu'elle met en péril la reproduction de nombreuses espèces. L'accaparement des eaux poissonneuses de l'Afrique de l'Ouest par des chalutiers industriels français, espagnols, chinois ou coréens, japonais ou russes, menace la sécurité alimentaire de la région. Cette préoccupation a été prise en compte à Bissau lors de la 11e édition du Forum du partenariat régional côtière et marine, PRCM, sous le thème « Conservation, résilience et développement durable du littoral de l'Afrique de l'Ouest face aux changements globaux ». L'une des questions débattues en atelier pendant le Forum est la surpêche. Le phénomène prend de nos jours une forme légale avec les accords ouvrant les zones côtières aux navires des pays riches auxquels s'ajoute un pillage à grande échelle contre lesquels la lutte semble inégale.
Je suis Ahmed Senhouri, directeur exécutif du PRCM. Dans toutes les décisions, que ce soit les décisions de gestion des ressources halieutiques ou des décisions d'octroi de licences ou de signature d'agrément de pêche, d'accord de pêche avec d'autres pays, tout cela doit se faire de manière transparente. Parce que s'il est fait de manière transparente, il va pouvoir permettre une meilleure utilisation des ressources et une gouvernance appropriée. Nous essayons de promouvoir la transparence à travers aussi la lutte contre la pêche illégale qui se pratique dans notre pays, qu'elle soit au niveau de la pêche artisanale ou la pêche industrielle. Les capacités de nos États ne sont pas encore suffisantes pour faire face à cette pêche qui est menaçante et qui sévit dans nos zones côtières depuis des décennies. Nous essayons de sensibiliser les États aussi à renforcer les capacités scientifiques dans un souci de prendre les décisions sur la base d'avis scientifiques avérés.
Une mutualisation de vos efforts?
Oui. On peut le faire individuellement, mais il faut surtout le faire à une échelle régionale. Parce que nous savons que nos pays, individuellement, n'ont pas assez de ressources pour accompagner le développement de ce secteur qui est très complexe et qui est aussi stratégique pour chacun des pays. Donc, si nous nous comparons à l'Union européenne, qui négocie les accords de pêche aussi ensemble, au lieu de les négocier séparément, alors qu'ils les négocient avec nous de manière individuelle. Chacun de nos pays élabore sa propre stratégie, négocie séparément. Donc nous voyons que là, nous avons vraiment besoin d'une coopération régionale dans le domaine de la gestion des pêches.
Sur la côte ouest du continent, les autorités maritimes éprouvent déjà les pires difficultés à contenir les appétits des centaines de chalutiers qui écument l'océan Atlantique.
Je suis Abdoulaye Diagana, je coordonne les programmes de la Convention d'Abidjan. C'est sûr que quand il y a à faire un choix entre sauver la vie d'un oiseau et exploiter, extraire des barils de pétrole, le match est très rapidement joué. Mais encore une fois, il est utile que les décideurs aient un regard plus lointain que le quotidien qu'ils gèrent et aient conscience du fait que quand on exploite ou qu'on dérange, qu'on perturbe les écosystèmes, ce n'est pas sans conséquences. Et parfois, le prix à payer pour restaurer ces conséquences-là ou le prix à payer pour avoir perturbé ces écosystèmes-là peut être beaucoup plus élevé.
La réflexion est portée sur la création d'aires marines protégées en haute mer. Mais pour les États défaillants, cela semble être un rêve qui aura du mal à se réaliser. Chaque pays doit jouer sa partition. Mais la tâche immense a été confiée au président bicentenaire Umaro Sissoko Embalo de faire le plaidoyer auprès de ses homologues de la sous-région. Car les défis sont énormes et les moyens inexistants. Ainsi, l'Afrique de l'Ouest sera une partie prenante dans l'effort global de la lutte contre les bateaux voyous dans ces eaux. Alain Yorombalo Bissau, RFI.
Transparence, renforcer les capacités scientifiques des pays, coopérer à plusieurs et avoir un regard plus lointain que le quotidien. Voilà en résumé ce qui était dit. Qu'en pensez-vous ?
J'ai 78 ans et ça fait 30, 40 ans que j'entends les mêmes choses. Les choses n'évoluent pas, ou plutôt vers le mal, parce que, entre autres, les pays d'Afrique occidentale n'arrivent pas à se mettre ensemble, comme ça a été dit. Par contre, certains pays du Pacifique ont formé une association et ils négocient en un seul groupe, une seule voix. Et le résultat, c'est qu'ils ont obtenu des accords beaucoup plus favorables. Et en Afrique occidentale, ça n'a jamais marché. Et j'ai remarqué quand j'ai enseigné dans les cours, je l'ai fait souvent, surtout au Sénégal et ailleurs, que même les collègues scientifiques qui savent que leurs populations de poissons sont partagées entre leurs pays n'arrivent pas à mettre leurs données ensemble. Donc le problème, c'est que il y a des nationalismes, j'imagine, ou des perceptions d'intérêts locaux qui empêchent la collaboration entre les pays. Et donc, les pays, comme l'a dit une des personnes que vous avez interviewées, n'arrivent pas à former un front uni vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des nations asiatiques qui leur envoient leurs bateaux. Et ça va toujours continuer parce que les pays sont trop faibles individuellement. Il serait en effet très important qu'ils arrivent à se regrouper et à négocier ensemble. Les pays perdent des sommes incroyables parce qu'ils n'arrivent pas à négocier des accords qui leur permettraient de vendre le poisson une fois qu'il a été mis en boîte ou produit d'une certaine façon. Donc, ils ne vendent que des produits bruts ou ils ne voient même pas le poisson qu'on leur prend. Évidemment, les pays ont un problème, c'est que les pêcheurs locaux ne payent pas d'impôts. Et donc, les pays d'Afrique n'ont très peu d'argent. Donc, ils sont forcés de vendre leurs minéraux, leurs forêts et leurs poissons. Et donc, c'est un trou dont il est très difficile de sortir. Et sans accords internationaux et sans association des pays, ils ne s'en sortiront jamais.
Frédéric Lemanac, vous partagez ce constat ?
Oui, bien sûr. On a vraiment besoin d'avoir une coopération régionale. Comme Daniel Poli le disait, c'est le cas dans le Pacifique et ça fonctionne plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de surpêche ou d'activité destructrice de la pêche, mais au moins les pays sont organisés en guildes et arrivent à obtenir quelque chose qui est satisfaisant d'un point de vue financier. C'est pas du tout le cas en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, puisque les Européens et les Asiatiques sont aussi présents, par exemple, dans le canal du Mozambique. Et donc, on a besoin de travailler là-dessus. On a aussi besoin de faire en sorte que l'Europe change radicalement de posture en Afrique. Par exemple, en ce moment, dans l'océan Indien, il y a des négociations qui ont lieu sur la répartition des quotas ou sur la manière dont on doit pêcher le thon. Et en fait, l'Union européenne a une position ultra-dominante, écrasante des pays côtiers, que ce soit de Madagascar, des Maldives, des Comores, du Kenya, etc. Et on a des Européens qui utilisent des méthodes de pêche qui sont très destructrices, notamment les dispositifs de concentration de poissons dont on a déjà parlé dans cette émission, qui génèrent la capture de centaines de milliers de juvéniles de thon par an, de tortues, de requins, etc. Et on a un soutien inconditionnel de la Commission européenne ou des États français, espagnols, pour soutenir ces méthodes de pêche-là. Et donc, on a besoin d'avoir aussi l'Union européenne qui prend les devants, qui décolonise réellement ses relations avec les pays d'Afrique, pour laisser la place justement aux demandes des communautés côtières, de la société civile locale et des gouvernements locaux. Tant qu'on aura l'Union européenne ou la Chine ou le Japon qui écraseront les négociations internationales, parce que c'est vraiment le cas. C'est des dizaines de délégués contre un ou deux stagiaires quand il y a des délégués pour certains pays. Évidemment qu'on ne peut pas sortir de l'ornière avec ce système-là de domination écrasante. Donc, ce n'est pas qu'une question de groupements locaux, c'est aussi une question de laisser la place aux acteurs locaux de s'exprimer.
Maxime Delis, il y a un fort décalage entre ce que l'on entendait des discussions à Bissau et le PRCM, etc., et le contenu de votre bande dessinée.
Oui, mais le sujet, c'est le même. Le sujet, c'est la relation qu'on a avec l'océan. Et oui, c'est nécessaire de réguler, oui, la pêche légale et la pêche illégale, mais je pense qu'il est encore plus nécessaire de rappeler que l'océan, c'est les conditions de vie sur notre planète, et que là, on est en train de vider, de manger les conditions de vie sur notre planète. Et donc, il y a vraiment urgence à changer de vision. L'humanité mange aujourd'hui 9 fois plus de poissons qu'il y a 100 ans, 9 fois plus. La planète n'a pas...
Après, nous sommes plus nombreux
on est,
aussi.
On est plus nombreux aussi, mais c'est énorme. Les Français mangent 35 kilos de poissons par personne et par an. Et donc, il y a un vrai sujet aussi sur jusqu'où on veut aller et comment on veut consommer. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve des solutions assez rapidement sur est-ce qu'on ne peut pas manger moins de poissons assez rapidement, parce que sinon, on est en train de tout vider.
Et puis, Daniel Poli, comme il y a moins de poissons dans l'océan, eh bien, nous développons l'aquaculture. Et cela a d'autres conséquences qui sont multiples.
Oui, l'aquaculture pourrait être une solution à certains de ces problèmes. Mais il faut comprendre que l'aquaculture, c'est deux secteurs complètement différents. Comme en agriculture, on peut cultiver du blé et on peut produire du bétail. L'aquaculture, la plus grande partie de la production d'aquaculture vient de bivalves, de moules, d'huîtres et autres bivalves. Et ça, ce sont des herbivores qui ne consomment pas d'aliments. Et ils nettoient même la mer un peu. Ils luttent contre la pollution. En fait, les huîtres, c'est ça. Ils produisent des millions de tonnes d'aliments qu'on n'a pas besoin de leur fournir. Par contre, quand on parle d'aquaculture, en général, c'est un autre secteur, un autre sous-secteur auquel on pense, à savoir, ce sont des poissons carnivores, des saumons, bien sûr, des loups, qu'il faut nourrir avec du poisson. Et en fait, la production d'aquaculture de saumon, en aquaculture de saumon, consomme le poisson, elle ne produit pas du poisson. Et en fait, elle utilise de la farine de poisson et de l'huile de poisson qui est tirée de sardines que consomme entre autres les Africains. Donc, on a une situation où on extrait des sardines d'Afrique, on les presse, on produit de la farine de poisson avec laquelle on nourrit des saumons que mangent les Français. Et donc, ça, c'est ça aussi l'aquaculture. Et c'est le secteur que j'appelle aquaculture B, for bad, mauvais. L'aquaculture A, c'est celle qui produit des quantités énormes d'aliments, surtout en Asie. Donc, il faut choisir entre les deux.
Mais le choix est vite fait, puisqu'il y en a une qui est bonne pour l'écosystème et une autre qui est plus polluante, Frédéric Lemanac.
Oui, malheureusement, pour les intérêts financiers, c'est un petit peu une autre histoire, puisque...
C'est l'inverse.
Exactement, c'est l'inverse. Mmh. Et on voit des systèmes qui sont délirants, puisque donc Daniel Poli parlait, par exemple, des captures de sardines ou de sardinelles ou d'anchois au large de l'Afrique de l'Ouest ou au large de l'Amérique du Sud. On va aussi pêcher le krill. Par exemple, en Antarctique, le krill, c'est quoi? C'est une petite crevette qui est à la base de la chaîne alimentaire de tout l'écosystème antarctique. Donc, tous les prédateurs, que ce soit les phoques, les oiseaux marins, les baleines, consomment en très, très grande quantité. Et donc, on a des entreprises russes, chinoises, norvégiennes qui vont en Antarctique pour pêcher ce krill dans des quantités astronomiques, pour faire de l'huile et de la farine pour nourrir un saumon d'élevage qui va être consommé sur le marché occidental. Et donc, en fait, le problème, c'est que la valeur qui est générée in fine par cette production de saumon, elle est malheureusement supérieure à la valeur certainement générée par des huîtres ou des moules. Et donc, on a vraiment un marché qui s'organise. En tout cas, en Europe, on voit que l'aquaculture qui est portée par la Commission européenne, par exemple, ou par les États, c'est pour des poissons carnivores, c'est pour du bar, c'est pour du saumon, c'est pour de la dorade, c'est pour ce genre de poissons, alors qu'évidemment, on aurait besoin d'avoir de l'aquaculture qui ne dépend pas d'avoir des intrants, donc de l'alimentation qu'on va aller chercher dans le milieu sauvage pour produire un saumon de mauvaise qualité. en plus pour un marché riche.
Et Maxime Delisle, vous en parlez aussi dans votre bande dessinée. Hein. On voit qu'il y a de plus en plus de sardinelles qui sont pêchées au large des côtes africaines pour faire ces usines, pour alimenter ces usines de production de farine de poisson que l'on voit pousser d'ailleurs tout le long de la côte. Et ça a des conséquences. Il y a un des héros de votre livre, là, on voit qui du coup n'a plus de poisson dans ses filets, donc qui doit quitter sa famille, etc. Enfin, c'est le cercle vicieux.
La surpêche, elle a des impacts qui sont majeurs, que ce soit au niveau environnemental, on détruit les écosystèmes, et aussi au niveau social. On est en train de mettre des milliers de pêcheurs au chômage, des milliers aussi de femmes transformatrices au chômage, parce qu'il n'y a plus de poissons. Et après, le choix, il est assez simple. C'est de la migration, soit régionale, soit internationale, soit de la piraterie. Et donc, les impacts sont vraiment forts. Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour que des Européens ou des Américains puissent avoir un sushi livré par un livreur Deliveroo devant leur Netflix. C'est complètement aberrant. Et donc, il y a absolument besoin de changer rapidement. Ouais.
Mais plus de 3 milliards d'êtres humains dépendent de l'océan pour leur survie, que ce soit pour se nourrir ou pour faire vivre leur famille. Alors, quelles sont les solutions à notre disposition pour ralentir ce carnage ? Nous en parlons dans un instant. Mais d'abord, place au Nigérian Eli Jae et son titre All Over dans C'est pas du vent, évidemment. All over, all over. All over, all over. C'est pas du vent, un titre extrait de la playlist de RFI que vous pouvez retrouver sur vos plateformes préférées.
RFI. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons des conséquences de la surpêche aujourd'hui dans C'est pas du vent, car si la pêche nourrit et fait vivre 3 milliards de personnes, il y a beaucoup de misère derrière cette activité. Alors comment lutter pour protéger la biodiversité de l'océan et la dignité des hommes qui en vivent ? Daniel Poli, le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré très peu de temps d'ailleurs après avoir été élu, hein, sa volonté de renégocier les accords de pêche conclus avec l'Union européenne pour préserver justement la ressource dans la zone exclusive du Sénégal. Il veut réserver les 12 premiers milles marins, environ 20 km depuis le littoral, à la seule pêche artisanale et éloigner la pêche industrielle. Est-ce que selon vous, c'est une bonne stratégie ?
C'est une excellente stratégie. Je lui souhaite vraiment bonne chance. En fait, je fais partie d'une ONG qui s'appelle Oceana et nous avons réussi au Pérou à faire exactement la même chose. Il y a deux zones, les petits pêcheurs de 3000, donc de à peu près 5 km, et les pêcheurs moyens, c'est une catégorie qui existe au Pérou, 12 km. Et il y a eu un accord entre les différents groupes de pêcheurs, et la pêche industrielle doit rester au large de ces 12 000. Et ça diminue fortement les conflits sociaux, les conflits entre les groupes de pêcheurs, et ça permet au stock de poissons de se remettre un peu, parce que en zone côtière, c'est surtout des juvéniles qui ont besoin d'être laissés en paix. Et en fait, sans pêche industrielle dans la zone côtière, le stock peut se remettre. C'est donc une victoire qui a eu lieu au Pérou. Et si le Sénégal réussit à l'imposer, peut-être que les autres pays d'Afrique le feront. Et ça serait une bonne chose.
Mais toute la difficulté, comme vous l'évoquez, c'est de l'imposer. Comment ont-ils fait au Pérou ?
Il y a les pêcheurs ont un poids social, un poids politique très, très important. Parce qu'ils votent. Et donc, une alliance électorale s'est formée et certains politiciens ont vu leur avantage de créer cette loi.
Frédéric Lemalac, justement, avec Blum, vous avez créé une coalition pour finalement faire en sorte que ce que le président sénégalais réclame ou ce qui a été fait au Pérou, comme le disait Daniel Poli, devienne mondial.
Oui, on a créé une coalition pour la protection de l'océan que j'invite tout le monde à rejoindre, qui porte un certain nombre de demandes. On a une quinzaine de demandes hein, sur l'océan, sur la protection, la mise en place d'aires marines réellement protégées, etc. Mais évidemment que la création de zones côtières où seuls les artisans qui ont un ancrage territorial, qui génèrent de la valeur ajoutée sur les territoires, ont le droit de pêcher, c'est absolument primordial. Donc, jusqu'à maintenant, on sait qu'effectivement, certains pays ont mis en place sur le papier ces zones-là. Ce n'est pas forcément mis en œuvre. Et donc, on a maintenant les outils technologiques. On peut avoir de la coopération avec les pêcheurs, la société civile, pour s'assurer que ces zones-là sont réellement respectées. Mais évidemment que déjà d'exclure de la bande côtière les bateaux les plus grands, ce serait une victoire majeure. Et ça permettrait évidemment la reconstitution des écosystèmes marins. Ça permettrait de préserver les savoir-faire et les économies côtières. Et ça permettrait évidemment aussi de régénérer les populations de poissons, puisque c'est sur la bande côtière qu'on a aussi les nourrisseries, les zones de ponte, de croissance des juvéniles, etc. Donc préserver ces zones-là, c'est absolument fondamental.
Mais préserver ces zones-là, c'est compliqué. Vous l'avez vu, Maxime Delisle, lorsque vous avez été sur les différents navires là, durant les campagnes de Sea Shepherd, vous voyez des gros chalutiers européens ou asiatiques rentrer dans la zone soi-disant réservée plutôt à l'artisanat ?
Je pense que c'est vraiment possible à partir du moment où la règle est claire. Le sujet en Afrique, là, sur les chalutiers qu'on a vus avec Sea Shepherd, c'est qu'ils avaient le droit d'aller à 3-4 km des côtes. Ils avaient le droit de chaluter. C'est des chaluts de fond qui ramassent tout. Et donc, il faut, en effet, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut les repousser. Et ce qui est bien avec l'océan, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. En fait, c'est un écosystème qui est d'une résilience incroyable. Donc, si on le laisse tranquille pendant quelques années, les poissons reviennent en masse. Le seul problème, c'est qu'on le laisse pas respirer parce que 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, il y a des milliers de chalutiers qui viennent le ratisser. Alors que oui, il faut les mettre plus au large parce qu'il y a des capitaux, ils ont la capacité d'aller plus au large et laisser des espaces de respiration pour les écosystèmes marins et pour les populations qui en vivent, qui en ont besoin pour vivre.
Alors Daniel Poli, je me permets de rappeler, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez 77 ans, ça fait plusieurs décennies que vous vous battez sur ce terrain de la préservation de la biodiversité marine. Est-ce que vous voyez quand même des signes positifs dans cette évolution ?
Oui, les signes positifs, c'est surtout qu'on sait ce qu'il faut faire. Là, c'est clair, on sait ce qu'il faut faire et on commence à apprécier les aires marines protégées, les bandes réservées aux pêcheurs artisans et autres méthodes de préservation des écosystèmes. Donc, on n'a plus cette situation de cette naïveté qu'on avait avant. Les problèmes vont se régler automatiquement. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a plusieurs pays qui ont fait de bonnes choses. On a aussi l'exemple de plusieurs pays. On a l'exemple d'aires marines protégées qui fonctionnent bien.
Où ça, par exemple ?
Par exemple, celle que les Américains ont créée au nord-ouest des îles Hawaï. Cette aire marine protégée, on peut voir de l'espace, fonctionne si bien que les bateaux sont autour de l'aire marine protégée et pêchent les poissons qui en sortent. Fishing the line, ça s'appelle en anglais fishing the line, c'est-à-dire les bateaux exploitent les poissons qui sont exportés par l'aire marine protégée. Parce que quand la densité augmente à l'intérieur de l'aire marine protégée, les poissons s'en vont. Donc une aire marine protégée, ça produit du poisson. Et c'est exactement le contraire de ce que les gens qui n'en veulent pas nous disent, que l'aire marine protégée empêche la pêche. Pas du tout. Elle améliore la pêche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été inventées, en quelque sorte, les aires marines protégées aux Philippines. Les premières aires marines protégées qui ont été proposées dans les années 50 ou 60, c'était pour augmenter les prises. C'était pas pour protéger la biodiversité. Et maintenant, on comprend que les aires marines protégées, ça augmente la productivité des écosystèmes parce que ça, les populations se remettent. Il y a des tas d'exemples, mais des centaines d'exemples d'aires marines protégées qui fonctionnent bien. Et tout ça, c'est un capital qu'on a. Et avec ce capital de savoir, d'expérience, on peut discuter avec les décideurs. Et quand ils n'en veulent pas, c'est qu'ils sont sous l'emprise des amateurs. C'est tout.
Oui, des lobbies de la pêche. Frédéric Lemanac, on le voit bien en France, par exemple, où quand on a un ministre de la pêche qui dit qu'il ne faut surtout pas empêcher de pêcher au niveau européen dans les aires marines protégées.
Oui, c'est délirant. Il faut savoir que la France, en 2025, va organiser à Nice, en juin, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et en même temps, on a effectivement le ministre de la Pêche, Hervé Berville, qui dit qu'il est formellement et fermement opposé à l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. Et donc la France, au niveau européen, au niveau mondial, se bat pour que la destruction des habitats marins dans les zones qu'on appelle protégées ne soit pas une réalité. Donc c'est complètement délirant. On a vraiment un discours qui est opposé aux actes, puisque la France prétend préserver déjà plus de 30% de ses zones marines. Mais en réalité, quand on regarde là où les bateaux opèrent, on a les plus gros bateaux et les bateaux les plus destructeurs qui sont chaque jour dans les aires marines protégées. Donc on a vraiment un gros problème là-dessus.
Maxime Delisle, au-delà de vos séjours, vos missions avec Sea Shepherd, je le disais, vous êtes aussi investi avec cette association systémique. Comment est-ce que vous travaillez ?
L'idée de base, c'est que tout le monde est responsable, que ce soit les politiques qui doivent réguler et tenir leurs engagements, le consommateur qui doit peut-être faire un peu de preuve de sobriété, et aussi les entreprises. On travaille beaucoup les entreprises de la grande distribution et de la restauration collective qui servent tous les jours dans leurs assiettes des milliers ou des millions de repas, dont de poissons. Et donc ces acteurs ont une capacité à faire beaucoup, beaucoup mieux. Et donc l'objectif de Systémique, c'est quoi ? C'est d'aller pousser ces acteurs, de leur ouvrir les yeux.
Qu'est-ce que vous leur dites ?
On commence sur le saumon, par exemple. Il y a malheureusement une ignorance. Les gens ont l'impression que manger du saumon, c'est de faire du bien à la planète parce qu'ils imaginent des poissons qui vivent dans les fjords norvégiens pêchés à la ligne, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc c'est ouvrir les yeux et ensuite montrer l'impact environnemental et social total. C'est si on sert un kilo de saumon dans les assiettes d'un restaurant, l'impact carbone, c'est quoi ? C'est ça, l'impact de pollution de l'eau, l'impact plastique, l'impact sur les populations de petits pêcheurs. Ouvrez les yeux et ensuite les accompagner pour changer leur recette, pour faire végétaliser les assiettes ou prendre des poissons qui sont moins destructeurs, qui ont moins d'impact. C'est des petits poissons pélagiques, certains qui sont pêchés par les pêcheurs artisans, qui sont pêchés à la ligne ou au casier et pas au chalut. Voilà, donc les accompagner pour, avec à la fois la carotte et le bâton, pour aller rapidement, parce qu'il y a urgence, vers moins de destruction.
Daniel Poli, ça aussi c'est un travail colossal à faire, travailler avec les industriels.
Je n'arrive plus à le faire.
Pourquoi ? Vous n'y croyez plus ?
Parce que les objections qui sont faites sont tellement délirantes, comme le dit Frédéric, que moi, je n'ai peut-être pas le bon tempérament.
Frédéric Lemanac, pour terminer, le combat, c'est un combat quotidien. Pour Bloom, vous scrutez en permanence ce que fait la France, mais pas seulement, parce qu'au niveau européen, il y a vraiment des défis colossaux. Les lobbies sont très, très puissants.
Oui, c'est un défi de tous les jours. Les lobbies sont très puissants. Les lobbies ont aussi infiltré, malheureusement, les administrations de la Commission européenne ou des États. Il y a vraiment des ascenseurs qui existent, qui sont très bien huilés entre administration et lobby. Donc ça devient vraiment de plus en plus compliqué de mettre la pression pour obtenir des changements radicaux. On sait, comme le disait tout à l'heure Daniel Pauly, on sait ce qu'il faut faire, mais il y a une sorte d'aveuglement collectif, politique, qui fait qu'il n'y a pas la volonté d'acter ces changements-là. Et donc, effectivement, nous, Bloom, tous les jours, on suit, on fait une veille juridique ou législative pour voir quels sont les nouveaux textes qui sont sortis pour permettre telle ou telle méthode de pêche destructrice. On attaque beaucoup aussi en justice au niveau national, au niveau européen, quand la Commission européenne ne fait pas son travail, quand les lobbies mentent ou trichent, quand les États ne vont pas dans le bon sens, etc. Donc on a vraiment cette veille juridique, législative, scientifique, aussi de suivre à la trace, jour après jour, les plus grands navires de pêche européens, où qu'ils soient, puisqu'ils pêchent en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc c'est un travail qui est intense pour s'assurer que, au moins, on arrive à ralentir cette destruction-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en tout cas, de voir le jour, la lumière au bout du tunnel, quoi. On a malheureusement des tendances qui sont assez négatives.
Et c'est le cas dans de nombreux sujets quand on parle d'environnement. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Pillage, c'est le nom de la bande dessinée que vous venez de publier, Maxime Delisle, avec les dessins de Renan Coquin chez Delcourt. Frédéric Lemanac, vos études sont à lire sur votre site, hein, bloomassociation.org. Et pour avoir une vision exhaustive de la pêche à l'échelle mondiale et découvrir votre formidable destin, Daniel Pauly, je signale aux auditeurs le livre qui vous est consacré, Daniel Pauly, Un océan de combat, écrit par David Grémillet et publié aux éditions Wild Project. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire à travers les réseaux sociaux ou à cepasduvent@rfi.fr et à partager nos podcasts à partir de l'application Pure Radio. Nous nous retrouvons demain. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.